raté. Donc Antoine Chex est né à Gap en 1732, donc 18e siècle. Et il est mort, comme je vous l'expliquerai plus tard, mitraillé à Lyon pendant la Terreur en 1793. Antoine Chex était le fils d'André Chex, qui était procureur au bailleur de Gap. Procureur au bailleur de Gap, c'était une charge. Et il était marié à Madeleine Roland Labaume. Un bailliage dans l'Ancien Régime est une circonscription administrative dirigée par un bailli et chargée de rendre la justice locale. Le procureur est un juge. Malheureusement, son père André meurt très jeune, à 30 ans, laissant 6 enfants. Sa mère Madeleine meurt peu après. Les enfants se trouvent donc orphelins et sont recueillis à Lyon par leur propre grand-oncle, Jean-Louis Roland Labaume, négociant et fabricant de bas de soie. C'est donc tout naturellement que l'oncle, maître d'apprentissage, apprend le métier de la soie à Antoine à l'âge de 14 ans, en 1746. Au bout de 5 ans d'apprentissage,
c'est long, bon.
Il est reçu compagnon.
19 ans.
Son frère Jean le remplace alors comme apprenti et devient à son tour compagnon. Et les deux frères créent une société en 1756 pour fabriquer des bas de soie.
D'accord.
À 39 ans, en 1771, Antoine épouse à Lyon Marie-Barthélemy Giraud. Deux filles naîtront de cette union, dont l'aînée Françoise, dont on parlera plus tard, est née en 1773. Pour les besoins de leur fabrique, Antoine achète en 1777 un ensemble immobilier comprenant deux maisons et jardins dans le quartier Saint-Clair. L'atelier abrite 40 métiers pour bas et emploie au moins 12 salariés, sans compter les brodeuses et couseuses à domicile. Dès la création de la communauté des fabricants de bas de soie en 1777, Antoine est élu l'un des trois maîtres gardes pour 3 ans. Donc il rentre dans la communauté des fabricants. En 1778, un différend oppose les deux frères Chex. Ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas les mêmes points de vue sur l'expansion de leur commerce que Jean, donc le frère, avait engagé auprès de clients étrangers. Lui, il a voulu faire du développement. Il est allé vendre les reproductions à Amsterdam, Cadix, Copenhague, Naples, Porto, Saint-Pétersbourg, partout. Et ils rompent donc leur association, parce que ça sent mauvais. À cette époque-là, les gens ne payaient que quand ils avaient reçu la camelote. Donc il fallait que ça fasse le voyage jusqu'à Varsovie, et qu'à Varsovie ils payent, et qu'ils ramènent. Et qu'à ce moment-là, on payait les ouvriers. Et comme on était à la veille de la Révolution, il y avait des mouvements sociaux, les clients se sont dit, ça sent le roussi là-bas, on va faire traîner pour payer. Donc il a fallu aller chercher les sous, et ils se sont battus, ils se sont séparés, ces deux frères. Puis arrivent les mouvements révolutionnaires, donc en 89, 90, 91, 92, victoire de Valmy sur les Autrichiens, fin de l'Assemblée législative et arrivée de la Convention nationale. La Convention, vous savez, c'est le gouvernement du moment. Ça s'appelait Convention, comme aujourd'hui on dirait 4e République. La Convention nationale, proclamation de la République, abolition de la royauté, laïcisation de l'État civil, le ménage d'Antoine habite à Lyon, il habite rue Royale, merci Bruno, Bruno qui habitait rue Royale, on a vu l'appartement d'Antoine.
Il y a des belles photos.
En vous rappelant, voilà, rue Royale dans le nouveau quartier créé par Soufflot. C'était le quartier moderne.
17.
Ouais, c'était le quartier de moderne, créé par Soufflot avant la Révolution. Je vous résume maintenant les événements de Lyon en 1793. En vous rappelant que le 21 janvier 1793, Louis XVI a été guillotiné à Paris. La révolution à Lyon commence le 29, enfin pas la révolution, comment on a appelé ça, L'insurrection lyonnaise commence à Lyon le 29 mai 1793. Les Lyonnais s'élèvent contre la municipalité dirigée par un dénommé Chalier. Ce Chalier était un extrémiste, hein, ce qu'on appelait à l'époque un montagnard, aujourd'hui on dirait Mélenchon. À l'époque on disait les montagnards c'était les extrêmes gauches, les Girondins c'était plutôt les centristes. Alors il était montagnard et les Lyonnais ne supportent pas les excès de ces montagnards révolutionnaires, ils ne supportent pas la mort du roi, ils ne supportent pas tous ces massacres qu'il y a eu en septembre à Paris, il y a eu la chasse aux prêtres réfractaires, il y a eu Chalier, il a été le premier à commander une guillotine pour l'installer place des terreaux, donc les Lyonnais ont commencé à ruer dans les brancards, ils ont viré Chalier. Ils ont viré Chalier. Et pour virer Chalier, il a fallu le guillotiner. Et comme on venait justement, Chalier venait justement d'installer les guillotines, ça a été le premier à inaugurer. Et le bourreau, le pauvre bourreau qui était payé pour, c'était son métier.
Oui.
Il a fallu qu'il inaugure la guillotine. Il ne savait pas faire. C'était la première fois qu'il faisait. Alors il tire sur la corde, vous savez, pour faire tomber les guillotines. Pas de pause, ça s'est arrêté au tiers du coup. Pas de calme, les enfants, il a monté son machin. Il retire sur la mécanique. Pas de pause, ça ne marche pas non plus. Et le deuxième tiers du coup. La foule exaspérée, etc. Et ben, il remonte tout, c'était décalé, recale, etc. Le pauvre type était en bas, attends. Et troisième coup, ouf, eh bien, il est pareil au bout. Alors il a sorti son opinel et il a fini au couteau. Voilà comment Chalier est mort. Et vous verrez la fin de l'histoire après. L'histoire est vraie. Alors donc Chalier est mort et la convention à Paris a entendu parler de ça. Et ils ont dit, les Lyonnais, ça va bien, on va leur tomber dessus et on va les assiéger pour les arrêter de faire des conneries. C'est comme ça qu'a commencé le siège de Lyon. Le nouveau bourreau Jean Épais inaugure la guillotine. Oui, voilà, trois essais. Bon. La convention déclare que Lyon est contre-révolutionnaire et doit être écrasé. Devant l'attitude des Lyonnais, la convention a dit, on va envoyer deux émissaires pour mettre de l'ordre là-dedans. Donc, le 7 août 93, la Convention envoie les troupes dirigées par le général Kellermann pour encercler la ville et les mettre au pas. Les Lyonnais décident de résister et demandent au général de Précy de prendre le commandement des troupes lyonnaises. Donc, les Lyonnais sont enfermés parce qu'ils sont attaqués de tous côtés et le général de Précy désigné pour diriger la manœuvre intérieure. Le 12 août 93, par mesure de rétorsion, la Convention scinde le département de Rhône-et-Loire en deux départements. Vous savez que les départements ont été créés en 1789 et qu'il y avait un département qui avait été créé, comme tous les autres, le département de Rhône-et-Loire. La capitale, dont le chef-lieu était Lyon. Et ben pour les punir d'avoir fait le saut, la Convention a dit on va faire deux départements, le Rhône, Lyon, et la Loire, Feur, à l'époque. Donc déjà première punition, et le général Kellermann, qui était désigné pour encercler Lyon, il pataugeait, la Convention l'a viré pour en envoyer un plus nerveux. Et ils ont jugé, ils ont envoyé un autre général, qui s'appelle le général Dopé, qui lui a encerclé la ville à toute vitesse, et les Lyonnais ont été assiégés, ils n'ont plus rien à bouffer, plus d'armes, et ils ont fait évacuer les femmes et les enfants. Vous savez, c'est l'égalité. Ils ont évacué les femmes et les enfants, et ils ont donc fini par assiéger complètement la ville, Pendant ce siège, je précise que Antoine avait 61 ans. Il n'avait pas été requis pour faire partie des troupes intérieures de défense de la ville, mais il prenait une part active au comité de surveillance de son quartier qui siégeait en permanence. Le 8 octobre, le général de Précy, commandant les troupes à l'intérieur de la ville, tente une sortie par l'Aisse avec la cavalerie. Il essaye de fuir pour aller rejoindre la Suisse, pour essayer de récupérer les troupes, pour venir donner du renfort à Lyon. Perte complète. C'est un échec complet. Ils se sont tous fait ratatiner, tous morts. Et la ville a été obligée de se rendre. La ville s'est rendue le 9 octobre 93. Donc depuis le siège a duré
4 mois.
Bon, de octobre à de août à octobre. Août, septembre. Du coup, la convention a pris très rapidement un décret. Lyon n'est plus. On supprime Lyon. Et on commence par lui supprimer son nom. Lyon s'appellera maintenant ville affranchie. Lyon n'existe plus. Couthon est chargé de faire appliquer le décret et, appliquant à la lettre les directives, il commence à démolir, en particulier les immeubles de la place Bellecour, puisque la convention a dit Lyon n'est plus, ben, ça veut dire qu'on détruit Lyon. Alors on a commencé par détruire les immeubles de la place Bellecour, qui étaient des beaux immeubles. En fait, ils ont fait semblant parce qu'ils ont détruit les façades. Bon. Alors, à ce moment-là, il y a la répression. On a fait la chasse aux sorcières, un peu comme dans toutes les guerres, à l'épuration en 1945, en 1815, quand Napoléon s'est cassé la gueule, il y a eu l'épuration, etc. Bon. Là, ça ne s'est pas appelé l'épuration, c'était des commissions de justice militaire qui ont été chargées. C'était des commissions, vous savez, ce sont des tribunaux spéciaux, comme tous les tribunaux spéciaux, ils jugent tout ou rien, c'est-à-dire tu peux ou être condamné ou être mis à mort, mais tu ne peux pas avoir des peines intermédiaires, et il n'y a pas de cour d'appel, c'est toujours des justices expéditives. Donc ces commissions se sont mises en place et ils sont mis à juger tous les gens qu'on leur apportait, que par dénonciation essentiellement, lui il n'a pas fait ci, lui il n'a pas fait ça, lui on l'a vu, il a fait ça. Donc tous les gens qui étaient dénoncés, ils passaient devant les commissions et on les jugeait. C'était des jugements hâtifs. Sur le papier, il y a eu des comptes rendus, c'est formellement, il n'y avait pas d'avocat pour les défendre. Hein. C'était un peu expéditif. Mais on a des traces de tous les jugements qu'on a eu. Alors, les premiers jugements sont tombés, et le jugement tombait à 11h, et à 2h d'après-midi, le type il passait à l'échafaud, ça ne prenait pas. Mais malheureusement, ça n'allait pas assez vite, parce qu'il jugeait plus vite que l'échafaud ne pouvait produire. L'échafaud, ça fait 12 guillotinés par jour, mais eux, ils en condamnaient 50. Alors ça s'empilait partout et il ne savait plus où les mettre. Et puis il pouvait y avoir des révoltes. Parce que, surtout qu'à l'époque, dans les prisons, on n'était pas nourri. C'était la famille qui venait apporter la nourriture. On leur a passé du vin par les soupiraux, etc. C'était pas très bien organisé. Donc ces commissions ont fait leur boulot de juger les gens, de les condamner à mort, et comme ça n'allait pas assez vite, la Convention a envoyé deux nouveaux émissaires, dont le célèbre Fouché, qui a trouvé la solution. Il a dit, bon, puisque ça ne va pas assez vite, on va prendre d'autres moyens, enfin en plus, c'est pas à la place, en plus. Donc on va prendre les gens, on va les emmener attachés à la queue leu, on va les emmener dans la plaine des Brotteaux, c'était de l'autre côté du Rhône. Ils ont fait des tranchées, on les a mis au bord de la tranchée, tous attachés les uns aux autres. On a reculé les canons, et on a mis dans les canons, au lieu de mettre des boulets, on a mis la mitraille. Et boum, 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 boum. Donc notre ancêtre, lui, il a été mitraillé avec de la mitraille. Mais ça ne marchait pas tellement bien, parce qu'ils n'étaient pas tous morts d'un coup. Alors il fallait que la cavalerie passe par derrière, et les finissent à la main.
Les achèvent.
Les achèvent, merci. Il y avait donc deux émissaires, le célèbre Fouché, bien sûr, et un autre qui était plus discret, qui s'appelle Collot d'Herbois, qui, lui, quand la révolution a été finie, a pris tout sur la gueule, parce que Fouché, lui, s'en est bien sorti, il a dit « c'est pas moi, c'est lui ». Fouché, lui, après, il a eu une grande période active, mais son copain Collot d'Herbois, il a été envoyé à la... il était envoyé à... non, pas aux Antilles, à...
Cayenne.
Cayenne, voilà. Alors, Antoine Chaix, il est dénoncé, alors n'importe qui, il pouvait dénoncer n'importe qui, donc Antoine Chaix, notre ancêtre, il a été dénoncé, il a été emprisonné à l'hôtel de ville de Lyon, les scellés ont été posés à son appartement et à son atelier, un gardien qu'on appelait à l'époque gardiateur est placé à ses frais dans son appartement rue Royale, là où habite Renaud, c'est l'appartement qu'on a vu ensemble. Où l'on saisit, c'est pour la petite histoire, on a saisi 60 bouteilles dans la cam et de nombreuses balles de soie pour son magasin. Il y avait du stock. Parce qu'ils étaient... Il y avait un côté, comment dire, qu'est-ce que je voulais, de la justice. Quand on condamnait quelqu'un, on préservait ses biens. Donc on mettait les scellés sur son appartement et on payait un gars pour le garder, aux frais bien sûr. Alors ce gardiateur, puisque c'est son nom, on sait qu'il a été payé 100 livres par semaine, aux frais toujours, ça coûtait 100 livres par semaine, et on sait aussi que Antoine il a été condamné, parce qu'il fallait bien trouver un motif, parce qu'on ne condamne pas les gens sans motif. Et le motif de la condamnation de Tolchek, c'est A, verser 600 livres pour la cause. Je ne sais pas quel est le terme. Ah voilà, a donné 600 livres pour les frais du siège. Voilà, c'est le motif. Mais 600 livres, il a donné 600 livres. Pour voir ce que ça vaut 600 livres, il faut comparer avec quelque chose. Et bien, le gardiateur, on lui donnait 100 livres par semaine pour garder un appartement. Donc 600 livres, c'est rien du tout. Il est condamné pour 600 livres. Oui, je la suis. Les premières exécutions de mitraillade dont je viens de parler ont eu le 4 décembre, dans la plaine des Brotteaux, avec 60 victimes le même jour, mitraillées au canon. Puis le lendemain, 5 décembre, même dispositif, avec 209 victimes dans la journée. Ça ne vous dit rien. Antoine, depuis sa prison, fait des tas de démarches pour échapper à une condamnation, en vain. Arrive le 13 décembre, vendredi 13, date du jugement. Donc le jugement est formel, il est condamné à mort, motif, a donné 600 livres pour les frais du siège. Ce jour-là, il écrit à sa femme. Alors je vous lis le texte de sa lettre à sa femme. Le vendredi 13 décembre à 10h du matin, il est dans sa prison et il écrit. Je t'écris, ma chère femme, pour la troisième fois que je suis détenu à la cave, avec la plus grande crainte d'être mise à mort cet après-midi. Emploie tous les moyens, va chez la citoyenne Manéchal et chez la citoyenne Chedel, auxquelles nous avons déjà écrit pour faire les démarches ensemble. Auprès des représentants ou de mes juges, tâche d'obtenir qu'ils nous entendent de nouveau. Va avec les enfants à la section, jette-toi à leurs pieds pour obtenir un certificat vrai qui atteste ma bonne conduite. Que je n'ai point écrit ni armé, afin que tout ce que tu imagineras de convenable aux circonstances, adieu, je t'embrasse, voyez l'émotion, avec la plus grande amitié. Émouvant. Dans l'après-midi, ça pas traîné, un convoi de 32 condamnés quitte les caves de l'hôtel de ville, traverse le pont Morand sur le Rhône, se dirige vers la Part-Dieu, alors les Lyonnais, évidemment, se repèrent facilement, va vers la Part-Dieu, arrivés devant les fossés, ils sont alignés, mitraillés au canon. Les corps sont jetés dans les fossés, recouverts de chaux et sommairement enterrés. Ces mitraillades au canon, créées par Collot d'Herbois et Fouché, suscitent un tel effroi dans la population qu'elles seront supprimées le 11 février 1994. Donc ça aura duré du 4 décembre... Au 11 février.
Deux mois.
De violence excessive, et la population, paraît-il, et les mêmes, comment dire, les exécutants ne voulaient plus, les cavaliers qui étaient chargés de finir les condamnés, ne voulaient plus y aller. Donc, et c'est Fouché qui s'est vanté par la suite, là-bas, non seulement, c'est lui qui avait ordonné ce système-là, mais il s'est Philippe, on est arrivé.
Oui, oui.
Et alors, Fouché s'est vanté par la suite, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est fait glorifier, parce qu'il a dit c'est moi qui ai arrêté ces horribles massacres pour respecter la volonté du peuple, c'était beaucoup trop violent, et il en a tiré profit. Et que l'autre c'était un salaud, il a fait foutre l'internet. Alors donc, bref, toujours est-il que Mitraillade se termine le 11 février, mais pendant cela, les guillotines tournent toujours. La terreur continue, puisqu'on est en pleine terreur, et contrairement à ce qui se passe à Paris, à Lyon, la terreur se termine le 16 avril. Vous savez que la terreur s'est terminée à Paris pratiquement le jour de la chute de Robespierre, en juillet 1994. À Lyon, c'était déjà fini depuis le mois d'avril, depuis le mois de... Avril, le 16 avril, c'était la dernière. Tous les tribunaux ont fermé la porte, ils ont dit terminé, on a fini le boulot, on s'en va. Donc 16 avril 1994, à Lyon, tout est fini. Plus de révolution. En 1824, alors là j'arrive 20 ans après, les restes d'Antoine et autres victimes sont exhumés et transférés dans le premier ossuaire des Bretons. On savait où ils avaient été enterrés, les gens avaient repéré, il y avait des gens qui avaient vu. On a rouvert les fosses et on a pris tous les ossements. On a mis dans une crypte. Donc la crypte de notre ancêtre Antoine Chef contient les restes d'Antoine. La crypte de la chapelle est très émouvante car on peut voir tous les crânes et tous les os des victimes, dont ceux de notre ancêtre Antoine Chef. Deux messes par an y sont célébrées, en mai et octobre, aux dates anniversaires du début de l'insurrection et de la fin du siège. Donc ça raconte l'histoire de Antoine Chex. Maintenant, je vais vous parler de plutôt de généalogie, mais je vous en ai parlé au début, donc je répète. Antoine Chex a eu une fille qui s'appelle Françoise, qui a épousé un beau jeune homme qui s'appelle Magnin, François Magnin. Et ils ont eu une fille qui s'appelle Fanny Magnin, qui a épousé Henri Thiolière, lequel Henri Thiolière a épousé Amélie Thiolière. Voilà. Amélie Thiolière est la femme de Jules. Je répète, Amélie Thiolière est la femme de Jules. Je répète, Amélie Thiolière est la femme de
Jules.
Donc, Amélie Thiolière est la femme de Jules, c'est son arrière-grand-père qui était Antoine. Bien d'accord. Et Jules, c'est notre arrière-grand-père. Bien. Alors, je vais vous le redire sous une autre forme. Autrement dit, Antoine Chex, c'est l'arrière-grand-père d'Amélie Thiolière, qui épouse Jules Dujonchet. Jules Dujonchet est mon arrière-grand-père. Vous vous souvenez? Celui qui est envoyé dans la Loire avec son frère, avec son fils. Il a 43 ans avec son fils Henri à 14 ans, vous y êtes. Et nous avions visité, il y a la première Saint-Onade, on avait été à Nîmes. Vous y êtes, ça suit. Voilà, alors ça c'est fini pour cette question-là. On arrive maintenant à la fin de mon exposé magistral pour vous parler d'une association dont j'assure la présidence, non pas intérim, mais la présidence. En 1986, en prévision du deuxième centenaire de la révolution de 1789, un groupe de Lyonnais fonde une association qui s'appelle l'association Lyon 93, en vue de garder la mémoire des victimes de la révolution à Lyon. L'association dont j'ai l'honneur d'être président regroupe les descendants des victimes de la révolution à Lyon. Elle édite un mémorial composé de 24 tomes.
Donc, oh là là.
Bon, voici un tome.
Le tome numéro
13, dans lequel vous lisez « Vie, mort et famille des victimes de la Révolution ». Non, ce tome 2 concerne la famille Chex. Donc cette famille a été étudiée avant nous, par des cousins, qui eux s'intéressaient à la généalogie à l'époque. En quelle année, je vais vous dire. Bon, enfin, une certaine année. C'est vieux. Et donc, ils ont fait ce bouquin sur Chex, que je n'ai pas inventé, j'ai tout copié là-bas. Hein. Alors, donc, cette association écrit, édite des mémoriaux. Là, c'est le tome jeudi 12, 13. Et on en est au 25e. Là, cette année, on vient de produire le 25e. Et il y a le 26e et le 27e qui sont en cours d'élaboration. Donc, d'année en année, on édite des tomes. Elle édite un mémorial et composé actuellement de 24 tomes. Le 25e et le 26e sont en cours de rédaction. Chaque tome comprend une partie biographique de la vie de l'individu, ce que je viens de vous raconter, plus toute la généalogie. Alors là-dedans, on retrouve, après la biographie, on retrouve toute la descendance de cet empereur Chex. Chaque tome comprend une partie biographique et une partie généalogique. Par exemple, le tome 13, que je viens de vous montrer, édité en 97, c'est marqué dessus, concerne les familles Chex et Giraud. Enfin, alors, concernant cette association, nous avons un site que vous pouvez visiter sur vos tablettes, sur vos iPhones, partout. Le site, vous tapez Lyon 93 et ça apparaît, j'ai essayé tout à l'heure, c'est le premier site qui apparaît, c'est le plus beau. Et on en parle, vous pouvez le lire, c'est intéressant. Je peux mettre ce que je viens de vous dire, si quelqu'un a enregistré, je peux mettre ce texte sur ce site. Vous pouvez même, si vous êtes passionné, devenir membre de l'association, dont sont déjà membres Philippe Dujoncher, ma fille Florence, qui dort. Mon fils Thibault, qui dort. Mon petit-fils Thomas Custer, qui est déjà parti. Ma sœur Cécile,
qui est là,
qui est réveillée. Mon beau-frère Bruno, qui est mort, qui est membre. Mon neveu Géraud, qui n'est pas là, mais il est membre. Géraud, qui est membre. Pierre-Simon Perret, qui n'est pas là, mais qui
est membre,
on va parler, est membre. Daniel Bonne, son propre oncle, est membre. Bref, tous les descendants de Jules et d'Amélie descendent de cette enceinte. Je vous remercie. Alors,
merci, Olivier.